Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Il existe différentes façons de parler pour être entendu. Est-ce que les mots que l'on prononce à la radio peuvent être de toute nature? Est-ce que le micro accepte tout? Est-ce qu'il influence la voix qui vient à lui? David Christoffel a eu l'idée de comparer les avantages respectifs de l'opéra et de la radio. La voix dans l'espace et la voix dans un studio. Si soudain, on dirigeait les vers et le livret différemment. Si on tentait d'être non pas dans la projection, mais dans l'intérieur de chaque son. Comment parle-t-on les choses? Comment peut-on dire « Hippolyte, bientôt, va paraître à vos yeux. Qu'entends-je ? À mes désirs, Phèdre n'est plus contraire. » Est-ce que les livrets de Rameau, les mots de l'abbé Pellegrin, sont radiogéniques? Cesse par tes vœux d'allumer le tonnerre. Éclate, éveille-toi. Sors d'un honteux repos. Rends-toi digne d'un héros. Qui de monstre sans nombre a délivré la terre? Le 250e anniversaire de la mort de Jean-Philippe Rameau est l'occasion de faire l'expérience, celle d'une joute entre deux grandes manières de parler, la déclamation et la radio, pour voir à quel point le livret de l'opéra Hippolyte et Aricy peut résister à l'adaptation. Puissant maître des flots, favorable Neptune, entends ma gémissante voix. Un désespoir affreux, pouvez-vous l'ignorer? Vous n'en avez été qu'un témoin trop fidèle. Grand Dieu, tu balances encore, étouffe dans mon sang un amour que j'aborde. Que faites-vous? C'est Rameau Radio Star par David Christoffel et Angélique Thibault.
Donc là, 2014, c'est les 250 ans de la mort de Jean-Philippe Rameau. Mais en 1983, c'était les 300 ans de sa naissance. Et pour l'occasion, il y avait eu plein d'émissions où il y avait pas mal d'interventions, notamment de Catherine Kinsler, qui était en train de faire sa thèse sur Rameau et qui était en train d'écrire « Poétique de l'opéra français ».
Et d'ailleurs, il est bien connu que Rameau n'était pas très très attentif au contenu des textes qu'il mettait en musique. Et on raconte à ce sujet la célèbre anecdote de la Gazette de Hollande. On reprochait à Rameau d'utiliser des livrets qui étaient pas très intéressants et pas toujours très bien faits. Et Rameau, ça l'agaçait beaucoup. Il répondait, écoutez, si vous continuez, vous m'embêtez. Si vous continuez, je vais mettre en musique la Gazette de Hollande. Et cette anecdote est amusante parce que Rameau n'envisageait pas de supprimer le texte. Pour lui, le texte est quelque chose d'important. Mais alors, la signification était tout à fait secondaire. Moi, j'en conclus que le texte a un intérêt ailleurs que dans son sens, ailleurs que dans les signifiés qu'il véhicule. Alors, quel est le rapport entre musique et langue si ce n'est pas seulement un rapport de signification? Eh bien, il y a deux analogies absolument strictes, absolument rigoureuses auxquelles on peut procéder à propos de musique et de langage, entre le matériau musical et le matériau linguistique. La première analogie, c'est une analogie matérielle. L'étoffe est la même, c'est le corps sonore, la voix vibre. Elle émet des vibrations, c'est un corps sonore. La voix, donc, peut être traitée comme un corps qui résonne, entre autres. Et la deuxième analogie, c'est une analogie plus subtile, mais on vient de la voir, c'est une analogie de forme, de structure. La musique, comme la langue, on l'a vu, sont articulées. Elles supposent des ensembles référents. Et la langue, comme la musique, émet des sons. Et non pas des bruits.
Et ce qui compte, donc, encore plus que le sens, par conséquent, c'est la sonorité.
Donc, en fait, après, là, quand elle fait cette émission, Elle est en train donc d'écrire Poétique de l'opéra français, et dans Poétique de l'opéra français, elle écrit que jamais le texte au sens strict n'a le droit d'assurer à lui seul la fonction représentative dramatique. Ce qui dit en fait que la consistance poétique dans les opéras dramaux tient à la musique, et donc peut pas tenir la rampe d'une adaptation qui serait juste parlée, comme on peut faire à la radio. Mm-hmm. Donc nous, ce qu'on peut faire, c'est de voir si on peut le faire quand même, et d'aller au Centre de musique baroque de Versailles pour voir comment ils travaillent.
Vas-y. Juste cruelle mère des amours. Non, cruelle mère des amours. Oui, tu me le reparles?
Cruelle mère.
Non, non. Tu rechantes? Ça suffit? Tu reparles à la même hauteur? Voilà,
ouais.
On y est.
Bah, tu veux pas que je parle comme ça?
Si.
Ah.
Bien sûr. Rechante-le.
Alors là, il y a Olivier Schnebelli, qui est le directeur artistique des chantres du Centre de musique baroque de Versailles, qui fait répéter le début de l'acte 3 d'Hippolyte Aricie Dramaux.
Vas-y.
Cruelle mère des amours, et pour le aider Marine qui interprète Phèdre à bien déclamer le vers, il passe par la mélodie composée par Rameau.
En général, c'est plutôt l'exercice inverse qu'on fait. Quand je leur fais travailler, par exemple, un acte d'un opéra de Lully ou de Rameau, en général, ils n'ont absolument pas le droit d'ouvrir la partition avant de connaître le livret, c'est-à-dire la pièce, par cœur.
Ré, mi, fa, fa, mi, ré, do.
Je vais pas nous
Merci.
Pour toi, c'est facile. En partant de la voix chantée, c'est finalement plus facile de trouver les choses. Mais tout de suite, je veux ce son-là. Hein. C'est ta voix. Et il ne doit pas du tout y avoir de différence entre la voix chantée et la voix. En revanche, chante moins quand tu chantes.
Ouais.
Parle-le. Chante-le en le parlant.
Alors, la première phrase que vous prononcez dans l'acte 3, Cruelle mère des amours, Olivier Schnebelli vous fait chanter la réplique avant que de la dire. Comment est-ce que vous abordez cette allée et venue entre chant et déclamation?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on apprend au Centre de musique baroque. Cette espèce de frontière à la fois très, très ténue et complètement compatible entre le chant et la déclamation. C'est-à-dire que dans ma voix, là, dans ma voix parlée, comme vous l'entendez, c'est quelque chose qui est, somme toute, assez superficiel. Assez superficiel, assez dans la gorge, sans aucune force, sans même beaucoup d'accent tonique, parce que déjà en français, il n'y en a pas beaucoup. Et dès qu'on est obligé de passer en voix chantée, déjà tout se crée beaucoup plus haut, les résonateurs qui sont beaucoup plus hauts dans la tête. Fin.
Mais ta conclusion doit être quand même présente. C'est-à-dire que vocalement, tu dois rester.
Ça tourne. Alors, comment ça commence?
L'opéra.
Ouais.
Le prologue.
Ça commence par un lever de rideau.
Le prologue commence avec une dispute entre l'amour et Diane.
Exact. Parce que Diane règne dans les forêts.
Exactement.
Et elle règne aussi sur les cœurs. Et elle voudrait que l'amour ne vienne pas empiéter sur ses plates-bandes.
Exactement.
N'est-ce pas?
la dispute tourne un peu au vinaigre, mm-hmm. et il me semble que Jupiter intervient, c'est ça ?
Je crois.
Et l'amour dit très bien. Quant à Diane, elle promet de sauvegarder l'amour d'Hippolyte et d'Aricie. Elle les protège.
Ouais.
Car ce sont ses sujets, je crois.
Mais parce qu'à la base, Diane devait se promettre à la déesse. Mais Diane,
Aricie.
Qu'est-ce que je raconte ? Aricie, ouais, voilà. Aricie. Elle doit se promettre à la déesse.
Ça dans le premier acte.
Mais elle est amoureuse d'Hippolyte, alors c'est pas possible.
Oui, mais parce que le premier acte commence. Aricie va justement prononcer ses vœux. Hippolyte, qui est aussi amoureux d'elle, sans qu'il se soit ils l'ont pas dit, hein, il me semble.
Pas encore.
Justement, Hippolyte l'empêche de donner ses vœux et ainsi éclate un peu au grand jour leur amour. Mm-hmm. Mais Phèdre, de jalousie...
Oh là, ça devient compliqué. On
n'a pas fini. C'est une tragédie antique. Phèdre, de jalousie, ayant peur que Carissi soit amoureuse d'Hippolyte, fait brûler ou détruit le temple avec ses soldats.
Si c'est
compréhensible. Il me semble que le premier acte se termine avec ça.
Alors, depuis Lully, dès qu'on voit un silence dans la basse continue, ça veut dire on a l'éternité. Qu'entends-je ?
Qu'entends-je ?
Non, je n'entends pas.
Qu'entends-je ?
Ouais, plus.
Qu'entends-je ?
Ouais, plus.
Qu'entends-je ? Qu'entends-je ?
Oui, encore une fois.
Qu'entends-je ?
Parle-le.
Qu'entends-je ?
Non, tu as pris...
Qu'entends-je ?
Tu as pris une
quinte
en dessous.
Qu'entends-je ? Qu'entends-je ?
Non.
Qu'entends-je ?
Ouais. Encore une fois.
Qu'entends-je ? À mes désirs, Phèdre n'est plus contraire.
Ouais, mais... ouais.
Phèdre n'est plus contraire. Ah ! C'est une lionne.
Ouais, oui.
Alors, juste...
C'est par tes vœux, oui.
Trouve la couleur du A.
Ouais.
Il faut que ça soit en même temps beau.
Oh. Ouais.
Peut-être plus comme un acide.
C'est au choix.
Ah, cesse.
Tout
deux.
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 Oui.
Ouais. Mais c'est très con aussi, là. C'est un très mauvais vers encore.
Et c'est le fait de la société, alors, si on n'accède pas au naturel.
Parce que le récitatif de Rameau, si on le compare à celui de Lully, il est très chiant. C'est toujours la même chose, c'est que l'anapeste tout le temps. On parle de Lully et de l'anapeste, mais alors Rameau et l'anapeste, c'est insupportable.
C'est du trampoline.
On sent que ça n'intéresse pas du tout. Donc voilà. Donc,
tu peux nous redire ce qu'est une anapeste, là, tout de suite ?
C'est le rythme. Pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pam.
C'est du trampoline.
Hippolyte bientôt va paraître à vos yeux. Non. Hippolyte oui. bientôt.
Oui, c'est pas mal, mais tu peux le dire d'une autre façon.
Hippolyte bientôt va paraître à vos yeux. Hippolyte bientôt va paraître
Hippolyte
à vos
va,
yeux.
Non, Hippolyte vous. Bientôt va paraître bah oui, à oui, vos
il,
yeux.
Oui, mais
il arrive,
arrive,
il est dans l'escalier.
Oui, il arrive.
Hippolyte bientôt va paraître à vos yeux.
D'accord.
Hippolyte bientôt va
paraître
à vos
yeux.
Hippolyte bientôt va apparaître à vos yeux.
Hippolyte bientôt va apparaître à vos yeux.
Voilà, alors tu vas me faire la même chose que ce qu'elle nous a fait. Tu as chanté Cruelle Mère des Anges.
Ou sinon, on peut faire.
faut que ça circule tout le temps, l'imagination. L'imaginaire, faites-le circuler tout le temps. Ces vers, ceux de Pellegrin sont moins bons que ceux de Racine.
Polyte, bientôt.
Mais ces vers, ça va toujours. C'est des appels d'air. Vous voyez ce que je veux dire?
C'est pas Hippolyte, c'est Hippolyte.
Hippolyte, bientôt, va paraître à vos yeux.
Hippolyte, bientôt, va paraître à vos yeux. Hippolyte, bientôt.
Faisons une chorale.
Hippolyte, bientôt.
Un tout petit peu plus de...
À cesse, partez-vous d'allumer le tonnerre. À cesse, partez-vous d'allumer le tonnerre. Éclate, éveille-toi. Il n'en est échappé qu'un seul à sa fureur.
Grand Dieu. Les chrysanthèmes que vous avez cueillis sont superbes, mais les azalées que vous avez achetées sont déjà flétries.
Tu peux ne pas minauder.
Ah, oui. Oh, ah. Les efforts que vous avez fournis sont notables, mais les espoirs que vous avez entretenus sont hors de propos.
Ensuite,
les ardeurs que vous avez projetées sont intrigantes, mais les langueurs que vous avez répandues sont illisibles.
Évidemment, on met en scène le mot, mais il ne faut pas non plus détourner l'auditeur de la réalité de ce qu'on veut dire.
Les amabilités que vous avez dispensées sont agréables, mais l'insistance que vous avez manifestée peut être un peu pressante.
Le mot à la fois a son importance dans la phrase, mais en tant que, je dirais plus, en tant que couleur, de la même façon dont on peut parler d'un ornement dans la musique baroque.
À l'oreille, enfin, parce que du point de vue du rendu radiophonique, il y a encore beaucoup d'air dans ce que vous projetez. Et je pense que ça doit être possible de ne pas le faire parodique, tout en donnant moins de voix encore, en donnant moins d'air, voire moins d'intonation. Mm-hmm. Parce que là, on sent que vous êtes comme habité par le drame, ce qui laisse quand même encore penser à une projection, quoi.
Donc que ça soit une voix plus...
Encore moins projetée, en fait.
Oui, mais là, toi, tu nous parles de...
Là, on imagine qu'on fait une version que radiophonique de Hippolyte et Aricie.
Oui, mais on habite quand même ces personnages-là, non ?
Oui, vous les habitez, mais vous les habitez pas sur un mode projeté. Vous essayez de les habiter en utilisant vraiment le micro comme un élément.
Ah oui.
D'accord.
Comme un élément d'amplification.
Grand Dieu !
Tu balances encore. Étouffe dans mon sang un amour que j'abhorre. Je ne puis obtenir ce funeste secours. Cruel ! Quelle rigueur extrême ! Tu me hais autant que je t'aime, mais pour trancher mes tristes jours, je n'ai besoin que de moi-même. Donne !
Que faites-vous ?
Peut-être tu vas me le chanter.
Tu m'arraches ce fer !
Je te donne les notes. Déjà, toi, c'est... Tu peux le chanter?
Tu m'arraches ce fer.
Tu vois, c'est pas si haut que ça, ouais. Mais quand tu vas le parler, vas-y.
Tu m'arraches ce fer.
Ouais, mais quand tu l'as chanté, il y avait plus les longues, c'était mieux.
Ouais, c'est bien. Tu m'arraches ce fer. Tu m'arraches ce fer.
Que vois-je?
Je n'ai besoin que de moi-même. Donne !
Que faites-vous ?
Mon époux !
Que vois-je ? Quel affreux spectacle !
Ne roule pas les airs, s'il te plaît. Vas-y.
Que vois-je ?
Non, c'est tout simple.
Que vois-je ?
Que vois-je ?
Que vois-je ?
Oui.
Quel affreux spectacle !
Mais que vois-je ?
Quel affreux
spectacle ! Tu sais ce qui se passe ?
Ouais.
Il est là avec son épée.
Non, c'est pas du tout ce que tu penses. C'est pas du tout ce que tu crois. Ouais.
Et lui, il voit comme s'il voulait la frapper.
Ouais.
Alors, que vois-je ?
Faites-le comme d'habitude.
Ok.
Que vois-je ? Quel affreux spectacle !
Mon père !
N'en fais pas des tonnes, non, t'as pas besoin. C'est quel affreux, mais spectacle, non ?
Quel affreux !
Et jamais, jamais, jamais couper un pied.
Spectacle ! Mon père ! Mon époux !
Mon trop fatal oracle ! Je trouve les malheurs que m'a prédit l'enfer. Reine, dévoilez-moi cet odieux mystère.
N'approchez plus de moi. L'amour est outragé. Que l'amour soit vengé.
Sur qui doit tomber ma juste colère ? Parlez, mon fils. Parlez. Nommez le criminel.
Seigneur. Dieu. Que vais-je lui dire ? Permettez que je me retire. Ou plutôt, que j'obtienne un exil éternel.
Là, on imagine qu'on fait une version que radiophonique de Hippolyte et Aricie.
Oui, mais on habite quand même ces personnages-là, non ?
Oui, vous les habitez, mais vous les habitez pas sur un mode projeté. Vous essayez de les habiter en utilisant vraiment le micro comme un élément de...
Ah oui.
D'accord.
Comme un élément d'amplification.
Ah, je me sens glacé d'une horreur sans égale. Terribles ennemis des perfides humains. Dieu ! Si prompts autrefois à les réduire
tu
en
vois,
poudre.
Juste, ouais. D'une horreur sans égale, des perfides humains, c'est des fins de verre que tu projettes vers l'extérieur et vers le haut. Et
il ne faudrait pas.
Il me semble que c'est hors de propos. Parce que d'accord. Justement, t'es dans quelque chose de plus rentré.
C'est d'une horreur sans comme égale.
Si, sans égale, ou comme si t'étais en train de réfléchir.
D'accord.
Je me sens glacé. Ou comme si tu le constatais. Ah, je me sens glacé d'une humeur sans égale.
En fait, il faudrait oublier la notion de dialogue.
Ah oui, je crois qu'il faut oublier la notion de dialogue. Parce qu'en l'occurrence, vous, du moins, la notion de dialogue vous emmène dans quelque chose de vraiment adressé à l'autre et dans des tons qui sont de l'interpellation. Mais c'est de l'interpellation scénique. C'est de l'interpellation qui a de l'espace. C'est l'interpellation qui a de la place. Alors que là, vous êtes dans une interpellation qui est juste dans la parole. Comme si vous ne pouviez pas vous regarder, que vous faisiez que vous entendre. Vraiment comme si vous étiez au téléphone.
Ah, je me sens glacé d'une horreur sans égale.
Sans égale, là c'est déjà trop chanté.
Sans égale.
Sans égale.
Ah. Déjà le A, ça...
Ah, déjà le A est hyper dur.
Oui, oui, non, mais c'est justement...
Mais en même temps, vraiment tu t'adresses à toi, quoi. Il y a quand même exclamation. Ouais. Ah.
Enfin,
ah.
Ah. Ah.
Non, là tu vois, c'est un A vers l'autre. Ah.
Ah. Je me sens glacé d'une horreur sans égale.
Il y a trop d'appui sur égal, puisque précisément...
T'es trop un chanteur.
Ah, je me sens glacé d'une horreur sans égal. Terribles ennemis des perfides humains. Dieu, si prompts autrefois à les réduire en poudre.
Oui, mais là, tu retrouves la narration.
Ah, zut.
Concentre-toi bien sur l'idée que t'es dans une description de toi-même à toi-même. Et que tu racontes rien. Tu découvres et décris en même temps.
Ah... Je me sens glacé d'une horreur sans égale. Terribles ennemis des perfides humains. Dieu s'y prend autrefois à les réduire en poudre. Qu'attendez-vous ? Lancez la foudre. Qui la retient entre vos mains ?
Mais alors, il faut que tu sois plus lent parce que ça te prend du temps de découvrir tout ça. Parce que c'est la gentillesse de la description doit pas arriver jusqu'à être de la malice de détachement. C'est de... Oui.
Ah, je me sens glacé d'une horreur sans égale.
Un désespoir affreux. entre eux. Pouvez-vous l'ignorer ?
J'adore « Pouvez-vous l'ignorer ?»
C'est en dit rien que deux.
Ouais. Non, mais... recherche encore plus cette histoire de désespoir affreux.
Je refais ?
Ouais.
Préviens par son trépas mon désespoir affreux.
Mon désespoir affreux. Pouvez-vous l'ignorer ?
Alors.
Je vais te faire quelque chose de sombre, de.
Ouais, mais. Non, c'est parce que vous essayez de faire. Vous essayez de mimer le désespoir. Non. On ne peut pas mimer un désespoir affreux. Quand on est désespéré, on n'a pas d'air, on n'a pas de, on n'a pas d'espace. Mmh. C'est ça. Hein. Vas-y, directement.
Un désespoir affreux. Pouvez-vous l'ignorer ?
C'est pas grave.
Mais, non, mais bémol. C'est,
ouais.
Bémol.
C'est un
bémol.
Bémol. Ouais. Ouais, très bien.
C'est ça. C'est ré si. Bécard.
Si. Avec un si bémol, hein?
Si bécard.
Ah oui.
Ouais.
Pouvez-vous l'ignorer?
C'est ça.
Pouvez-vous l'ignorer? Tu me le chantes?
Mi bémol.
Oh, désespoir affreux, pouvez-vous l'ignorer?
Pour moi, c'est très impressionnant ce que tu as fait là. Je sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était.
En fait, je suis pas satisfaite de ce que je fais. En fait, je crois que c'est. Enfin,
Ah bah, ouais, bah...
Ça me parle pas, cette manière de faire, en fait.
Désespoir affreux.
De faire
du
ça.
Du coup, c'est instinctif, finalement. C'est pas contrôlé, quoi.
Pouvez-vous l'ignorer ?
Bah, on peut pas tout contrôler.
On n'avait été qu'un témoin trop fidèle.
Tout contrôler. C'est à force de faire, et que finalement, on refait.
Je n'ose accuser votre fils, mais la reine, Seigneur, se faire armer contre elle ne vous en a que trop appris.
Dieu, achève.
Un amour funeste.
C'en est assez. Épargnez-moi le
est-ce
reste.
Est-ce que chanter, finalement, ça m'aide après pour le parler
ouais. Pour le mieux comprendre et pour mieux l'exprimer, finalement.
Pas
parce que tu disais tout à l'heure que tu l'as fait plutôt à la façon instinctive.
Ouais.
Et que
j'ai laissé mon corps.
Ouais. Tu n'es pas sûr de pouvoir le refaire si tu n'en es pas consciente.
Ouais. Ouais, c'est vrai. Enfin, en plus, surtout que là, c'était. Enfin, là, c'était vraiment sur le moment, quoi. J'ai pas eu le temps de. De bien habiter voilà. le passage qu'on avait fait avant.
Tu chantes trop.
Donc c'était plus difficile.
Surtout sur bientôt, tu vois.
Mais ça, en fait, ouais. En fait, ça m'aide pas forcément de chanter les choses. Ça m'aide pas forcément de chanter les choses de suite, quoi. Parce que, bah, par exemple, habituellement, quand je travaille mes airs. Enfin, je fais un travail de table.
Juste ça.
Pour bien comprendre les choses.
Je tremble.
Je tremble, c'est très long. Ouais. Je tremble.
Je tremble.
Très long, j'ai dit. Je tremble. Oui. Ouais, je voudrais
Je voudrais le timbre tout le temps. Mais même si tu dois faire passer un peu d'air dans la voix, c'est toujours quand même... Voilà, c'est un artifice. Mais ta voix, elle est toujours là.
Eh bien, viendra-t-il en ces lieux ce fatal ennemi que, malgré moi, j'adore ?
Essaye une chose. Ne dis rien, mais dis-le intérieurement. Oui, je pense un peu. Oui.
C'est difficile.
Un peu comme ça, oui.
Au ciel ! Quelle injustice ! Eh bien ?
Non, j'ai de l'air d'en bien. Eh bien ?
Je pensais qu'il fallait être un peu fébrile, mais ça me...
Oui,
ça,
mais...
Ça me plaît pas.
Tu vois, je peux être fébrile. Je peux... Eh bien ! C'est fébrile, ça. Non ?
Mais il y a de l'air. Un peu.
Mais... Oui, mais...
Mais je comprends
c'est
ce
de l'air sur une voix qui est toujours... Je suis toujours dans la voix. Alors, je peux faire... Mais si je fais « Eh bien, ça ne fonctionne pas.
» Eh bien !
Tu la vois, la flaque de sang
qui brûle, qui je sais pas comment dire, qui bouillonne.
Quel aveu l'ardeur qui me dévore au mépris de ma gloire.
Reine, sans l'ordre exprès.
Reine.
Reine.
Reine. Reine. Reine. Voilà, ben, tu vois, tu es ténor et moi je ne suis pas ténor, mais j'arrive. Reine.
Reine.
C'était très bien, hein. La couleur, la grisaille, tu vois, l'absence de lumière, c'est très bien.
En fait, je trouve que tout est tellement plus simple quand on peut chanter. En fait.
Je comprends.
Tu comprends ? Ouais. Tout est tellement plus simple parce que déjà, c'est merveilleusement bien écrit. Enfin, notre cher Rameau a bien fait les choses, et c'est-à-dire que... Il connaissait la langue française probablement que mieux que nous, on la connaît, c'est évident. Et déjà, tous les accents toniques, il les a écrits. Dans ses récitatifs, dans ses airs, dans toute sa musique, c'est rempli de toutes les liaisons, de tous les accents de la langue française. Et du coup, ça, mais dans toutes ses phrases, on les a naturellement.
Mais si vous dites qu'il a très bien intégré le langage naturel, ça veut dire que ça ne devrait pas être si frustrant de défaire de sa mélodie.
Et mais je me demande si... Je pense que c'est frustrant parce que nous... Justement, on en est très éloigné dans notre vie de tous les jours.
Vlad, est-ce que ça fait bizarre de diminuer l'emphase quand c'est justement au nom d'une planète ou d'un dieu qu'on s'exprime ?
Bah, justement, je pense que c'est encore plus difficile de rendre, en fait, de ne pas quitter cette expressivité, cette espèce de façon assez profonde d'invoquer surtout une divinité, mais justement on ne pas justement en quittant l'emphase qu'on utilise dans la déclamation baroque.
Puissant maître des flots, favorable Neptune.
Alors Marine, tu m'entends bien?
Ah oui.
Puissant maître des flots.
Alors, je vais te poser quelques questions. Tout d'abord deux questions. Que penses-tu, comment amener l'emphase de l'intériorisation quand on invoque Neptune? Comment le...
Oh, refais-la-moi.
Ou même en général, comment est-ce qu'on peut intérioriser, je veux dire dans le théâtre, je pense dans la déclamation, le fait d'invoquer une divinité ou une planète?
Mm-hmm. Mm-hmm. Je sais pas, on peut peut-être essayer de penser soi-même qu'on est dans une espèce de rêve. De toute façon, toutes ces histoires mythologiques, on s'en sert. D'accord. Toutes les histoires mythologiques, on s'en sert avant tout comme des symboles, comme des métaphores. Et à mon avis, c'est aussi des métaphores de la pensée humaine, de soi. Du coup, intérioriser une invocation à un dieu, moi, je le verrais comme une invocation très, très personnelle, peut-être qui fait appel à notre propre esprit. Mmh. Voilà. Donc moi, ça serait plus en me parlant à moi-même.
À partir du moment où tu as fait ça, j'ai vu ça. Mmh. Et j'ai vu ça. Mmh.
Jean-Philippe Rameau, le feu prédomine dans votre thème natal et vous apporte intuition, énergie, courage, confiance en vous et enthousiasme. Vous êtes enclins à la passion et savez affirmer votre volonté. Allez de l'avant et contre vent et marée, avec force, allez jusqu'au bout de vos rêves et de vos buts. La faiblesse relative de cet élément est sans doute le manque de recul ou peut-être une forme de hardiesse qui vous pousse, qui peut vous pousser à des imprudences risquées. Vive la communication et la mobilité, Jean-Philippe Rameau. Prédominance des signes d'air dans votre thème favorise et amplifie votre goût pour les relations avec autrui et les déplacements de toutes sortes, qu'ils soient réels, voyages ou symboliques, idées nouvelles, évasion par l'esprit.
De la semaine, citation de la semaine, citation de la semaine.
Bélier, avec ses cornes qui tournent et qui foncent dans le mur, Bélier, c'est s'enrichir que sauter des besoins.
Souffle.
Taureau, en si taureau, avec des grandes cornes et tout noir, une petite queue, des gros sabots, et très musclé, très très musclé, qui te fera peur à tout le monde, taureau. Nourrir l'ambition dans son cœur, c'est porter un tigre dans ses bras. Gémeaux, tout pareil, tout collé, tout copié, tout pareil, Gémeaux. Combien il y en a deux, il y en a qu'un, Gémeaux.
Ce n'est pas le puits qui est trop profond, mais c'est la corde qui est trop courte.
Cancer, Omi, comme la maladie du cancer. Cancer.
Bonne réputation vaut mieux que beaux habits.
C'était en mésotonique.
C'était en mésotonique.
C'était en mésotonique.
Très clairement. Ouais. Les mi bémol étaient un peu bas.
Mi bémol, un peu l'écart descendante.
Vous pensez que le xylophone était mal accordé?
Il y avait un xylophone?
Oh, non, c'était pas.
C'était un glockenspiel.
Glockenspiel, ouais.
Oh là là.
Ouais, ça vient d'où?
Alors c'est une collègue qui travaille ici, qui fait des chroniques et qui par ailleurs fait le conservatoire de Marseille et qui a toujours voulu chanter l'horoscope à la radio.
C'est vachement bien, c'est super
c'est
drôle.
C'est original.
Ah, j'adore.
Alors pourquoi c'est humoristique? C'est parce que c'est chanté alors que ça devrait pas l'être? Ça crée un effet humoristique?
Le fait que ce soit chanté là où on ne l'attend pas vraiment, je pense que ça crée déjà l'effet de surprise et même... Au fur et à mesure du temps, ça continue à surprendre.
Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est même pas vraiment chanté. C'est juste vachement psalmodié, vaguement psalmodié. Et puis le fait qu'elle aille très vite à toi, aille te coller, machin. C'est vachement bien ça.
Je vois pas pourquoi. Voilà, c'est pas super intéressant pour et captivant pour les radios. Dès qu'on a des chaînes. De télévision qui présente la météo, qui présente la météo en nu, voilà pourquoi on pourrait pas présenter l'horoscope en chantant.
Et nu?
Bah à la radio, pourquoi pas, mais...
Alors on va écouter l'autre horoscope, puisque là c'était la recueil des devises de la semaine pour chacun des signes, et après il y a les vraies prédictions.
Ah d'accord.
Papa, pa, la 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 la. Bélier, incité par Vénus, vous préférez cette fois établir des relations chaleureuses, positives avec votre conjoint, plutôt que de jouer à la tendre guerre avec lui. Le climat conjugal s'en ressentira très très bien. Taureau, harmonie, bien-être sont au rendez-vous. Toutefois, quelques tensions risquent de se produire si vous ne savez pas résister à la tentation de l'infidélité. Pas beau. Et si vous mettez la patience de votre conjoint à rude épreuve. Salaud. Gémeaux, tout se passera bien et votre partenaire sera des plus conciliants et des plus sensuels. Que pouvez-vous demander de plus? Cancer, il est vrai que vous adopterez une attitude plus responsable, que vous prendrez de très bonnes décisions concernant vos relations. Vous susciterez l'admiration de votre moitié, ce qui vous rapprochera encore davantage.
Je ressentirai un profond besoin de sérénité et pour ce faire accepterai quelques concessions et pour ce faire accepterai quelques concessions.
Toro!
Allez!
Harmonie et bien-être sont au rendez-vous. Toutefois, quelques tensions risque de se produire si vous ne savez pas résister à la tentation de l'infidélité ou si vous mettez la patience de votre conjoint à rude épreuve.
Découvert d'un type nouveau de sensualité.
Ah, balance. L'entente conjugale sera bonne, car vous ferez front ensemble aux difficultés diverses qui se présenteront.
Amen.
Et Noun, vous pensez qu'elle est de quel signe astrologique?
Là. Je sais pas du tout.
Il faut chercher. Ouais. Et Thésée, à votre avis?
Thésée, il devrait être scorpion comme moi.
Ah, justement, comme vous. Vous êtes scorpion, donc votre personnage est scorpion?
Ouais, je le vois très scorpion, ouais. Je sais pas pourquoi.
Scorpion, scorpion,
Sagittaire.
une attaque régale.
Moi, je prends la basse parce que je veux que tu entends.
Yes.
En régale. Allons-y.
Ah.
On n'est pas surpris quand on a nonne. On est plutôt triste quand on a nonne. On ne devrait pas annonner quand on veut être surpris. On n'est pas prêt d'être surpris quand on est triste. On est presque sûr de ne pas l'être quand on a nonne.
Voilà, qu'est-ce que je pourrais en rajouter? Bah voilà. Donc maintenant, je vais faire Olivier. Ce que je voudrais te demander avant, c'est d'essayer de voilà, de trouver plus comment dire, une façon plus cursive de le lire, et aussi de jouer avec de jouer plus avec les mots qui qu'on les trouve en fait avec les jeux de mots entre les mots qu'on les trouve dans les vers, par exemple anon deux fois, triste surpris, triste de nouveau, anon de nouveau. Tu l'as déjà très bien fait, mais je pense qu'on pourrait le rendre encore plus évident.
Je vais vous donner la définition.
Ouais.
Lire ou réciter, généralement par ignorance ou incapacité, sans intonation expressive et ou en hésitant sur les mots ou les syllabes.
Ah.
Annonner en récitant sa leçon.
Alors je me lance, hein. Tu m'arrêtes.
Ouais, ouais, je t'arrête, pas, t'inquiète pas.
On n'est pas surpris quand on annonne. On est plutôt triste quand on annonne. On ne devrait pas annonner quand on veut être surpris. On n'est pas prêt d'être surpris quand on est triste. On est presque sûr de ne pas l'être quand on annonne.
Voilà, mieux. Ouais, on peut le refaire. On peut refaire. Je vais te, voilà, je vais te t'arrêter de temps en temps pour essayer encore autre chose.
D'accord. On n'est pas surpris quand on annonne. On est plutôt triste quand on annonne. On ne devrait pas annonner quand on veut être surpris. On n'est pas prêt d'être surpris quand on est triste. On est presque sûr de ne pas l'être quand on annonne.
Est-ce que...
Quel affreux spectacle, mon père, mon époux. Oh, trop fatal oracle, je trouve les malheurs que m'a prédit l'enfer.
Donc en gros, j'en fais un peu trop.
Ouais.
Ouais.
Ou alors non. Donc en gros j'en fais un peu trop.
De tes pratiques, de tes habitudes de lecture.
Et là tu me demandes qui c'est.
Ce qui t'arrive de lire à voix haute.
Qui est-ce?
Bah c'est Rémi Campos qui est musicologue et qui a suivi un peu toute l'expérience qu'on a faite avec les chanteurs de Versailles et qui leur pose des questions pour finir.
Dans une langue étrangère, je pense que.
Est-ce qu'on peut parler de tes pratiques, de tes habitudes de lecture. Est-ce qu'il t'arrive de lire à voix haute?
Ouais, en fait, j'ai déjà fait ça, et surtout dans une langue étrangère, je pense que il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est une autre façon de compréhension. Quand on s'écoute et quand on voit la façon dans laquelle on parle et on fait sonner voilà, une certaine phrase, que de la lire en soi-même. Je pense que c'est très important.
Est-ce que tu prends du plaisir quand tu utilises une voix de radio plutôt qu'une voix de chanteur ? Je pose pas la question à l'envers parce que je sais la réponse.
Justement, c'est pas par hasard que je tiens toujours mes écouteurs. Je prends plaisir d'écouter ma voix et de donc pendant que je parle sans penser, de créer une certaine plaisir et bien-être en couple. Voilà. On n'est pas surpris quand on a non. On est plutôt triste quand on a non. On est presque sûr de ne pas l'être quand on a non.
On est presque sûr de ne pas l'être quand on a non.
Est-ce que le travail qui vous a été demandé de vous déprendre de votre héritage, de votre habitude de voix chantée a été le plus difficile ou c'est d'autres choses qui posaient problème ?
Non, c'était autre chose, je pense. Parce que... Du coup, moi, ça sera... Pour moi, en fait, le fonctionnement, ça se rapprochait de plus de notre manière de parler. En fait, qui finalement... c'est pas que ça demande de moins... Si, ça demande moins d'efforts, en fait. Je trouvais...
Vous aviez du mal parfois à activer ce qu'on pourrait appeler une imagination de la parole parlée. C'est-à-dire qu'en tant que chanteur, quand un professeur vous donne des indications, vous arrivez sans doute assez vite à trouver la chose qui est demandée. Or là, on voyait bien que arriver à s'imaginer ce qu'était le son parlé recherché, c'était pas toujours facile. Est-ce que tu aurais des choses à en dire ?
Je pense que c'est parce que nous sommes plus habitués à activer tout de suite toute la machinerie du chant. Et qu'on va chercher dans une mécanique qui est, je ne vais pas dire plus complexe que la voix parlée, mais qui est sur un mécanisme un peu différent. C'est que déjà, bien sûr, on va un peu plus timbrer, enfin un peu plus, le mot. Voilà, le soutien va être beaucoup plus actif. Et c'est vrai que comme la voix parlée, on s'en sert tous les jours, non pas à des fins professionnelles ni d'acteur, mais simplement pour s'exprimer. Et voilà, on ne va pas activer les mêmes soutiens.
Est-ce que dans le quotidien, tu utilises ta voix et toutes les choses qu'on peut faire avec une voix parlée pour rire, pour
tout,
non, pas seulement, j'ai pas fini, ou pour tirer des effets particuliers, est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu joues beaucoup, ta voix parlée ?
Consciemment, je sais pas. Inconsciemment, on nous fait toujours la remarque « Ah, t'as vraiment un rire de chanteuse, toi ?» ou enfin, ce genre de choses. Ça veut dire qu'on... Je pense qu'on timbre vraiment notre voix complètement sans le vouloir, beaucoup plus. Et dans le fait qu'on nous fait remarquer tout le temps qu'on parle très fort. Je pense... Là, je me retiens un peu, hein, là, tout de suite. Mais... Je pense que naturellement, c'est placé beaucoup plus haut.
Faut qu'on travaille des mécanismes.
Pour moi, vouloir des effets particuliers.
Pas nécessairement plus simple, mais plus basique.
Donc, un chanteur, c'est d'abord quelqu'un qui parle différemment, c'est ça ?
Un chanteur, c'est quelqu'un qui parle différemment. De par le fait, du coup, de son apprentissage. Ouais, je pense. Je pense qu'on peut pas occulter tout notre métier quand on s'adresse aux gens. Parce que c'est là, quoi. On a travaillé notre voix pour qu'elle soit placée ici-bas, comme disait Olivier, dans le masque un peu, ou plus haut dans les résonateurs. Et forcément, quand on parle avec les gens, y a quelques décibels en plus. Et quand on rigole, on nous entend à 100 mètres. Bref, c'est vrai. Souvent.
Donc l'expérience radiophonique que tu as vécue avec tes camarades, c'est une violence faite au naturel, c'est ça ?
Un peu. Non, en fait, oui, complètement. Complètement. Quand David me disait de justement utiliser le micro comme nous, on a l'habitude d'utiliser nos résonateurs, c'est-à-dire en occultant complètement notre façon de faire et en laissant le micro le faire à notre place, on était un peu perdus. Non, complètement perdu. Et... Ouais. Bon, ben, on nous a obligés à parler beaucoup, beaucoup plus qu'à chanter. Et c'est l'inverse de ce qu'on fait au quotidien, tout simplement.
C'était Rameau Radio Star avec les chantres du Centre de musique baroque de Versailles, Marine Lavdalfranc, Marie-Amel Lamagat, Lancelot Lamotte et Vlad Crossman. Directeur artistique Olivier Schnebelli, conseiller scientifique Rémi Campos. Prise de son à Versailles, Adrien Gaza. Prise de son en studio, Jean-Michel Bernot, Léa Le Foll et Sacha Trop avec la participation de Gilles Davidas. Attaché de production, Inès De Bruyne et Alice Ramon. Coordination, Irène Omelianenko.
Je n'ai besoin que de moi-même. Donne !
Que faites-vous ?
Je sais faire.
Mon père.
Tu comprends ce que tu dis là?
Sachant qu'au début, tu commençais par dire que la voix chantée était plus riche que la voix.
L'affreux spectacle.
Oui, c'est vrai. Mais il y a plusieurs manières d'entendre le mot riche. Moi, j'avais une idée dans les harmoniques, dans la puissance.
Si tu dois être chien, sois chien de samouraï.
Avec la participation amicale de Volti pour les horoscopes chantés. Remerciements à Julien Charbet et Denis Crobala du Centre de musique baroque de Versailles. Mixage et effets spéciaux Alain Joubert. Réalisation et doublure Angélique Thibault. Production et clavecin Love Story David Christoffel.
Vous pouvez réécouter et podcaster l'atelier de création qui tente de rendre l'opéra et son livret radiogénique. Rameau Radio Star de David Christoffel, c'est sur le site internet de France Culture. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, nous serons en compagnie de Chauve-souris. Belle de nuit, c'est une tragicomédie radiophonique de Pauline Horowitz qui s'est rendue à la rencontre biannuelle à Bourges des chiroptérologues. En attendant, il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture et dans quelques instants, vous retrouverez Christine Goémé, l'éloge du savoir.